avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Deux Allemagnes se font face toujours à Chemnitz après plusieurs rassemblements d'extrême droite. 65 000 personnes ont assisté à un concert contre la haine hier. Affrontements interposés autour de la politique migratoire à adopter. Il y a 3 ans, jour pour jour, Angela Merkel ouvrait les frontières de l'Allemagne aux réfugiés. État des lieux dans un instant.
Et puis nous reviendrons aussi sur la mort de Clément Méric, tué en 2013 lors d'une bagarre. Un étudiant devenu le symbole de l'engagement antifasciste. Le procès de ses agresseurs présumés commence aujourd'hui à Paris.
Les banques françaises s'engagent à plafonner les frais d'incident pour leurs clients les plus fragiles, 200 euros maximum par an. Jusque-là, un client en difficulté sur 5 se voyait prélever par sa banque plus de 500 euros par an.
Près de 300 000 habitants au Japon ont reçu des consignes d'évacuation. Plusieurs centaines de vols ont été annulés ce matin. Un puissant typhon approche de l'archipel, nous irons à Tokyo.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Seitz évoquera Jean-Luc Mélenchon, pris en étau sur la question de l'immigration. Et d'abord donc, ces 65 000 personnes mobilisées hier à Chemnitz dans l'est de l'Allemagne pour dire non à la haine, un concert de soutien aux immigrés, en opposition surtout aux rassemblements réguliers de l'extrême droite ces 10 derniers jours, dans cette même ville de la Saxe, en ex-RDA. La xénophobie en Allemagne est de plus en plus visible. La faute, disait hier soir sur une chaîne de télévision allemande, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, la faute à la chancelière Angela Merkel et à sa politique migratoire. Selon lui, elle ouvrait les frontières du pays aux réfugiés il y a 3 ans, jour pour jour, Ludovic Piétonu.
À l'époque, l'ancien président Joachim Gauck avait prévenu ses compatriotes « C'est un défi qui sera plus important que celui de la réunification de l'Allemagne ». C'est dire qu'en faisant preuve d'humanité et de générosité, Angela Merkel a pris ce jour-là un gros risque. 1000 jours plus tard, dans les rues de Chemnitz, dans ces cortèges conduits par le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, devenu depuis la première force d'opposition à l'Assemblée, répéter un discours avec méthode a produit ses fruits. Les électeurs ou sympathisants de ce parti comparent leur pays à une passoire.
Go away from Germany.
Qu'il s'en aille d'Allemagne, lance cette femme. Personne dans ce parti n'a quoi que ce soit contre les gens qui fuient la guerre. Par contre, on ne veut pas de criminels. Beaucoup pointent du doigt l'islam.
On ne veut pas tous ces effets de l'immigration.
Revient souvent l'idée d'une perte d'identité, d'une transformation du pays. Angela Merkel, cible privilégiée de l'AFD, elle a du sang sur les mains, pouvait-on lire sur plusieurs pancartes à Chemnitz, ou bien encore le très classique « Merkel muss weg », Merkel doit partir. Qu'elle s'en aille, dit cette autre habitante. Elle est mauvaise. Cette électrice ne lui fait plus confiance. Et pourquoi, par exemple? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a donc aucune responsabilité à part s'occuper d'elle, bien sûr.
C'est dur pour Merkel, là.
Angela Ulrich est journaliste politique à la RBB, la radio publique, à Berlin et Brandebourg.
Ça vient d'être 3 ans qu'elle a dit cette phrase un peu fameuse.
Wir schaffen das.
On va y arriver. Cette phrase qui, par ses critiques, est vue ou entendue par une invitation pour tout le monde qui peut venir ici. Et ça, maintenant, avec cet sentiment d'insécurité, tout ça tombe ensemble, ça fait jaillir la AFD. Donc c'est une situation assez grave pour Merkel, bien sûr.
L'appel à la mobilisation qu'elle a lancé hier pour défendre les valeurs démocratiques a produit un début d'effet avec ces 65 000 personnes rassemblées pour un concert à Chemnitz contre l'extrême droite, sous la bannière « Nous sommes plus nombreux », scandé par la foule. Angela Merkel, bien au-dessus des 50% d'opinion favorable dans tous les sondages, est allée réveiller finalement une majorité jusque-là silencieuse.
Un reportage de notre correspondant outre-Rhin, Ludovic Piétonu. Yasha Moon, que vous êtes l'invité des matins de France Culture, professeur de théorie politique à Harvard. Vous analysez la montée du populisme. Vous êtes allemand, naturalisé américain. Et vous étiez justement samedi à Chemnitz lors de différents rassemblements d'extrême droite et d'ultra-gauche. D'abord, pourquoi cette ville de Chemnitz cristallise les tensions et ces rassemblements?
Certainement, la ville de Chemnitz est une ville qui était assez prolétaire dans les années de l'Allemagne de l'Est, qui a peut-être eu un peu de problème de se renouveler de manière économique. Alors, il y a un peu de frustration là. C'est certainement une ville qui n'a pas une grande histoire d'immigration et maintenant est en train de changer. Il y a peut-être aussi un peu une culture spécifique, un peu nationaliste, on se part de l'Allemagne. Mais je crois qu'à la fin, ce qui est plus important sont les manières dans lesquelles Chemnitz est typique d'un problème plus gros en Allemagne, plutôt que les spécificités de la ville qui les rend un peu en part.
Alors, selon vous, le mouvement antifasciste qui a donné de la voix hier lors du concert à Chemnitz, justement, est-ce que ce mouvement peut devenir une réelle force en Allemagne?
Je ne crois pas que ça va devenir une force politique dans le sens d'une partie politique. Certainement, c'est très important de montrer, comme disait un des gens dans ce reportage, que c'est la majorité silente qui est contre les nazis, contre l'extrême droite. Mais comme moi, j'étais à Chemnitz samedi, je dois dire que ça m'a beaucoup frappé comment la ville s'était partagée dans les politiques extrêmes. Il n'y avait plus de vie normale, il n'y avait plus les trams qui fonctionnaient, il y avait beaucoup de magasins qui avaient fermé. Il y avait juste la ville partagée dans les deux grandes manifestations. C'était clair pour moi laquelle je préfère, mais comme vision de la politique future de l'Allemagne, ça faisait beaucoup peur.
Merci Yascha Mounk. Je rappelle que vous êtes spécialiste du populisme. Vous publiez Le Peuple contre la démocratie et nous vous retrouvons pour en parler après ce journal. Le mouvement antifasciste en France cette fois et ce procès qui s'ouvre aujourd'hui après la mort de Clément Méric, cet étudiant de 18 ans devenu le symbole de la lutte antifasciste après sa mort en 2013. Il avait été tué lors d'une bagarre entre des antifascistes et des skinheads d'extrême droite à Paris. 5 ans après, donc, son visage s'affiche encore sur les banderoles des militants d'extrême gauche et son procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. 3 hommes comparaissent, 2 d'entre eux sont accusés de violence volontaire ayant entraîné la mort. Mais Florence Turm, les faits doivent encore être minutieusement prouvés.
Plus de 5 ans après le décès de Clément Méric, plusieurs questions restent encore sans réponse que ce procès devra éclaircir en revenant sur les conditions de cette rixe mortelle entre 2 bandes rivales. À l'époque, la manif pour tous a fait ressurgir les tensions et les affrontements ne sont pas rares entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Mais le 5 juin 2013, c'est a priori le hasard qui les réunit autour d'une vente privée de vêtements dans le 9e arrondissement parisien. La marque Fred Perry a les faveurs des uns et des autres, les jeunes se croisent, s'invectivent, les Gilles s'efforce d'éviter la confrontation entre les deux groupes. Les amis de Clément Méric, jeune et brillant étudiant de Sciences Po, membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue, et ceux d'Esteban Morillo, crâne rasé, t-shirt à la mention 100% pure race, et proche du mouvement Troisième Voie que le gouvernement socialiste va dissoudre très vite après le drame. La bagarre éclate dans la rue sans que l'on puisse dire qui est à l'origine de l'affrontement. Clément Méric s'effondre, il ne se relèvera pas. Plusieurs coups violents l'ont atteint au visage. Esteban Morillo reconnaît lui en avoir porté 2, mais nie l'avoir fait avec un coup de poing américain que des témoins disent avoir vu entre les mains de Samuel Dufour, autre principal accusé de ce dossier. Les différentes expertises n'ont pas permis d'apporter de certitude sur ce point. C'est pourtant une question essentielle de ce procès que la défense va s'efforcer de contenir sur le simple champ du droit commun et de la légitime défense, quand la partie civile et les proches de Clément Méric continuent de porter haut et fort sa dimension politique.
Le procès doit durer 10 jours à Paris. Les banques françaises acceptent de donner un coup de pouce aux plus fragiles. Elles signent un accord avec Bercy pour plafonner le montant des frais bancaires, 20 euros par mois et jusqu'à 200 euros par an maximum. 350 000 personnes sont concernées. Ce serait une offre dite spécifique réservée aux clients en difficulté financière. Car si la montée de ces frais bancaires concerne l'ensemble de la clientèle, elle touche surtout les plus fragiles, Jean-Marc Chardon.
Il fallait trouver un levier permettant de modérer la poussée des frais bancaires. L'un des postes sensibles, ce sont les découverts, les dépassements qui concernent, sans qu'on s'en rende forcément compte, quelques 60% de la clientèle. Il en coûte ainsi en moyenne 60 d'euros par an. Mais avec des effets particulièrement fâcheux pour les détenteurs de comptes les plus modestes qui sont peu alimentés. Cette préoccupation, elle est montée d'un cran après la publication d'une enquête de l'UNAF, les associations familiales et 60 millions de consommateurs, lorsqu'elles ont révélé qu'un client en difficulté sur 5 se voyait prélever par sa banque plus de 500 euros à l'année. Sachant qu'on estime, ce sont les chiffres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, à plus de 3,5 millions les clients bancaires en situation de fragilité, on voit l'étendue des prélèvements que ça peut représenter. D'où cette idée d'un plafonnement à 200 euros. Encore faudra-t-il que les banques, qui tirent une partie substantielle de leurs revenus des frais pour incidents de paiement, ne cherchent pas ensuite à obtenir auprès d'autres clients, plus solvables, des compensations en faisant gonfler les coûts financiers sur d'autres postes.
Emmanuel Macron va-t-il reporter le prélèvement de l'impôt à la source? Le président tient ce matin une réunion de travail sur ce sujet avec le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. On ne sait pas encore s'il fera connaître sa décision dès aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, mais on sait déjà que les milieux économiques sont hostiles à cette réforme, qu'il s'agisse du patronat ou des syndicats. Invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, François Asselin, président de la CPME, la principale organisation patronale pour les petites et moyennes entreprises. Il estime que ce n'est pas aux entreprises de collecter l'impôt.
C'est assez étonnant qu'on sous-traite à une classe sociale, les employeurs, le travail de l'administration fiscale. On pourrait au moins demander ou avoir compensation. Vous savez, dans un pays comme la Suisse, où il y a le prélèvement à la source, opéré par les entreprises, elles sont rémunérées pour faire ce prélèvement à la source. Donc on aurait pu au moins espérer qu'il y ait compensation. Ensuite, si jamais demain, il y a des bugs, et vous avez entendu qu'il y a potentiellement des bugs, croyez-vous qu'à chaque fois l'entreprise sera mise hors de cause? J'en doute. Dans le temps, j'en doute fortement, puisque généralement, c'est le pot de terre qui s'affronte au pot de fer avec l'administration, surtout avec l'administration fiscale. Et puis le temps que nous y consacrons, vous avez eu des services de Bercy qui ont estimé le coût du prélèvement à la source, à savoir pour une petite entreprise de l'ordre de 50 euros par fiche de paye. Oui, mais attention, ça, c'est quand tout fonctionne bien. Mais lorsqu'il y aura un petit problème, le temps que vous allez consacrer, là, je peux vous dire que le compteur de coûts va s'incrémenter très rapidement. Et puis aujourd'hui, on nous avait dit que les éditeurs de logiciels feraient ça gratuitement. Beaucoup d'entreprises, et j'en fais partie, je ne suis pas un cas isolé, reçoivent des devis de mise à jour de leur logiciel de paye pour l'application du prélèvement à la source au 1er janvier prochain. Donc déjà, il y a des coûts induits, réels, qui tombent dans les entreprises, plus le temps, bien sûr, que nous allons y consacrer.
François Asselin, président de la CPME, au micro de Stanislas Vazak, à quelques heures, voire quelques jours, donc, de la décision d'Emmanuel Macron de reporter, supprimer ou maintenir le prélèvement de l'impôt à la source. En revanche, c'est certain, c'est aujourd'hui que l'exécutif doit donner le nom du nouveau ministre de la Transition écologique. Il remplacera Nicolas Hulot, démissionnaire depuis une semaine.
8h12 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le Japon est touché ce matin par un très puissant typhon.
Un typhon considéré comme le plus violent à frapper directement l'archipel depuis un quart de siècle. Le cyclone Jebi vient de toucher le sud-ouest de l'île de Shikoku en face d'Hiroshima et il perturbe déjà les transports et l'activité des entreprises, Frédéric Charles.
L'arrivée du typhon le long des côtes de l'île de Shikoku est effrayante. La mer est déchaînée. Les rafales de vent atteignent 216 km/h par endroit. Ils provoquent des vagues géantes d'une vingtaine de mètres. Elles s'écrasent sur des ports de pêche, détruisent en partie des murs anti-tsunami, arrachent des échafaudages et des arbres. Des consignes d'évacuation ont été données à 280 000 personnes. Dans la région d'Osaka, plus de 600 vols ont été annulés. Les liaisons ferroviaires sont suspendues. Des magasins de la ville ont décidé de fermer, tout comme les écoles. De nombreuses entreprises ont demandé à leurs employés de rester chez eux. Selon l'agence de la météorologie japonaise, le réchauffement climatique accroît la fréquence et la violence des typhons. Ils ont gagné 15% d'intensité ces 30 dernières années.
Et ajoutons qu'en juillet, déjà, l'ouest du Japon avait été fragilisé par des inondations et des glissements de terrain faisant 220 morts. L'Argentine annonce de nouvelles mesures d'austérité pour tenter de parer à la crise monétaire qui traverse le pays. Les dépenses publiques seront ainsi réduites en supprimant des ministères. Il est aussi question de taxer les exportations. Le ministre de l'économie argentin a rendez-vous aujourd'hui au FMI. Le Fonds monétaire international pourrait lui demander des coupes budgétaires plus agressive. En bref encore, Jean-Pierre Bamba est définitivement exclu de l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de l'ancien chef rebelle, mettant en avant sa condamnation pour subordination de témoins par la Cour pénale internationale. 53 dirigeants africains sont à Pékin jusqu'à aujourd'hui encore pour un 7e sommet Chine-Afrique. L'influence de la Chine sur le continent africain est grandissante. Preuve encore, face aux dirigeants hier, le président Xi Jinping a promis près de 60 milliards de dollars, et ce pour aider le développement du continent. Certains au Zimbabwe ou à Djibouti craignent une ingérence chinoise. La Chine qui investit aussi en Europe et qui va pouvoir le faire sans taxes sur les panneaux solaires. La Commission européenne annonce la fin des restrictions imposées sur la vente des panneaux solaires chinois. Une décision qui est entrée en vigueur à minuit tout à l'heure et qui revient donc sur une politique vieille de 5 ans, Johanna Hochstein.
En 2013, la Commission européenne voulait sauver la filière du photovoltaïque en Europe, concurrencée par des panneaux solaires chinois vendus à des prix défiant toute concurrence. Mais aujourd'hui, la Commission estime que les mesures prises à l'époque n'ont pas eu les effets escomptés. Elles n'ont pas permis de doper la production européenne de panneaux solaires, bien au contraire. Daniel Rosario, porte-parole à la Commission.
Des exportations des panneaux solaires chinois ont été remplacées par des panneaux solaires produits par d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande dans l'Union européenne pour ce genre de produits et que nous voulons aussi encourager l'utilisation des panneaux solaires pour des raisons de protection de l'environnement.
Objectif environnemental donc, mais aussi en termes d'emploi. Les installateurs de panneaux solaires, qui sont à la recherche de produits bon marché et qui demandaient la fin des droits de douane, représentent 10 fois plus d'emplois en Europe que les producteurs. Des producteurs qui craignent la fin de leur activité. Selon eux, les panneaux solaires chinois vont inonder le marché européen, puisque les autres grands acteurs, les États-Unis, l'Inde et le Canada, ont mis en place des restrictions sur les panneaux solaires en provenance de l'Empire du Milieu.
Les panneaux solaires utiles ce mardi sur le sud de la France qui sera ensoleillé. Le temps s'annonce en revanche gris au nord de la Loire et même pluvieux sur l'extrême nord du pays. Les températures comptées ce matin 19 degrés à Lorient, Lille, Besançon, 20 à Paris, Clermont-Ferrand, 22 à Lyon et à Bordeaux, 25 à Marseille.